On a toujours, je pense, une part de doute. Moi, j'évite de trop tergiverser. Je pèse vite le pour et le contre. Je pense qu'il y a aussi les émotions qui parlent. En fait, quand on se sent bien, on se dit, bon, ben, c'est ça, en fait, qu'il me faut. Si on a vraiment beaucoup de peur, c'est que c'est pas pour nous et il faut abandonner.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Il faut se fixer un objectif et peu importe les obstacles qui se présentent à nous, allez-y, ça va bien se passer. Si vous vous faites confiance, rien ne peut vous arrêter.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marine, qui après un BTS s'est spécialisée en licence de marketing international. Elle a ensuite effectué un master trilingue tourisme d'affaires et de luxe à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Après plusieurs expériences en France et à l'étranger, elle travaille aujourd'hui dans une agence d'attractivité à la chambre de commerce du Gers. Alors bonjour Marine.
Bonjour.
Alors tu travailles au sein d'une agence d'attractivité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors je travaille pour Gers Développement, donc c'est l'agence de développement économique du Gers. Et la mission de l'agence est de promouvoir et valoriser les atouts du département du Gers. Donc j'ai intégré l'agence il y a à peu près 1 an et demi. Et voilà, c'est un poste de chargée de développement territorial que j'occupe. Donc des missions très variées, il y a un peu d'événementiel, il y a de la communication. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis très attachée maintenant au département du Gers. Je trouve que c'est vraiment un très joli département et donc j'ai plaisir à faire ce métier et à promouvoir ce département.
Et tu dis que ce métier est fait de plein de choses différentes. Est-ce que tu pourrais nous le décrire ?
Oui, alors donc il y a une partie promotion du territoire sur les réseaux sociaux. Donc mettre en avant les atouts, donc que ce soit économique, culturel, touristique. L'agence a vraiment la compétence économique, donc nous on va vraiment mettre en avant les atouts du Gers sur le point de vue économique. Il y a une partie donc événementielle où j'organise des événements. On organise les rencontres de la ruralité positive pour montrer que en fait il y a du positif à travailler et vivre à la campagne. On travaille aussi également sur la transition alimentaire, sur ce genre d'événement, et également sur deux concours que j'organise, le concours agroalimentaire de la bio, qui est un concours national, et le concours Bio-Origine Gers, qui est un concours local pour promouvoir les entreprises qui utilisent des matières premières d'origine gersoise.
Alors, on va maintenant revenir sur ton parcours, sur toutes les étapes qui t'ont amené à faire ce métier-là. Donc, au moment où tu finis le lycée, tu as déjà vécu à l'étranger, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu envisages comme métier à ce moment-là ?
Eh bien, comme tu l'as dit très justement, effectivement, j'ai fait un séjour de 2 ans aux États-Unis qui m'a amené cette ouverture d'esprit vers l'étranger. J'ai appris l'anglais et donc j'avais envie d'exercer un métier tourné vers l'international. Donc c'est vrai qu'après après ces 2 années à l'étranger, je me voyais déjà faire des études en lien avec l'international. Donc c'est pourquoi, à mon retour en France, pendant le baccalauréat en fait, j'ai décidé après de me tourner vers un BTS commerce international pour pouvoir justement partir à l'étranger, parce que c'était une des obligations pour valider notre BTS, c'était de partir pour notre stage de première année à l'étranger. Donc je suis partie au Canada pendant 4 mois, où j'ai travaillé chez Mandmet Limited, donc qui était en fait une petite entreprise, une PME québécoise qui vendait des ventilateurs de foyer. Alors c'est très technique, mais au moins ça m'a appris beaucoup de vocabulaire en anglais. Et surtout, c'était une première expérience professionnelle à l'étranger, ce qui était vraiment très enrichissant pour moi.
Et tu rentres en licence de marketing international après ce BTS. Tu es en alternance. Qu'est-ce que cette expérience, elle t'a apporté ?
Eh bien déjà, elle m'a appris que finalement, je voulais surtout pas travailler dans le monde du textile et de la mode. Parce qu'effectivement, après ce BTS commerce international, j'ai choisi de me spécialiser. Puisque je sentais en fait que il fallait avoir des compétences spécifiques pour cibler le métier que je voulais faire. Donc je voulais faire acheteuse textile. Donc je pars dans cette licence marketing international où j'ai eu l'occasion de travailler pour le groupe Vivarte. donc qui a certaines marques comme La Halle ou comme San Marina par exemple. Et donc j'ai travaillé effectivement en alternance pour ce groupe à Paris et puis à Lille. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout un métier pour moi. Donc finalement, c'est ça que ça m'a appris, cette licence, c'est que j'aimais pour le coup très fortement le marketing. Et c'est d'ailleurs pour ça, on le verra après, je pense que je suis restée dans cette branche-là. Mais par contre, voilà, l'alternance m'a confirmé que le métier d'acheteuse textile n'était pas fait pour moi.
Et rapidement, en quelques mots, comment est-ce que tu décris ce métier d'acheteuse textile ?
Alors, c'est un métier déjà où on aurait tendance à penser qu'on part à l'étranger, sélectionner les bouts de tissu dans le monde entier. Et en fait, c'est pas le cas. Souvent, c'est toujours les mêmes pays. Finalement, moi, je me suis vite rendu compte que on n'allait pas à New York, on n'allait pas. Enfin, voilà. Et c'est surtout négocier des prix vraiment très à la baisse. Moi, c'est ça où je me sentais pas à l'aise avec le sujet. Parce que je connaissais les conditions de vie en fait des collaborateurs avec qui je travaillais dans les différents pays, et pour moi vraiment ça n'était pas en phase avec mes valeurs. Donc voilà pourquoi je me suis vite rendu compte que ce métier n'était pas pour moi.
Oui, alors du coup, on reviendra un petit peu plus tard justement sur cet aspect éthique, cet aspect de valeur. Pour revenir sur ton cursus, tu poursuis du coup cette licence avec un master tourisme d'affaires et de luxe. Ça change un petit peu du marketing international avec lequel tu avais commencé. Alors, tout d'abord, comment s'est passée ton expérience à la Cato ?
Alors, c'était vraiment pour moi les deux plus belles années d'études que j'ai vécues. C'est vrai que ce cursus m'a permis à la fois de travailler pendant 6 mois en entreprise la première année et la deuxième année, et de faire 6 mois de cours. Et c'est vrai que nous, dans notre promo, on n'était que 13. Donc déjà, c'était une ambiance qui était absolument formidable. On était assez soudés. Bon, surtout, on avait un petit groupe de 5. On s'appelle d'ailleurs les L5 parce qu'on était vraiment inséparables. Tous les projets de groupe, il fallait qu'on les fasse ensemble. Enfin, on a vraiment vécu des très bons moments. Et surtout, voilà, la deuxième année de master, j'ai aussi eu la chance de participer avec ma copine Lucie, qui était aussi dans ma promo. On a eu la chance de faire le 4L Trophy, qui était une expérience absolument inoubliable, où on a pu acheter une 4L et faire toutes les démarches pour trouver des sponsors et puis partir au Maroc pour une belle mission, parce que c'était une mission sportive et humanitaire aussi. Donc vraiment, je retiens que du positif de mon passage à l'Université catholique de Lille.
Pour revenir du coup à ce cursus-là, ton master, il t'a ouvert des portes, professionnellement parlant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, donc la première année de master, j'ai travaillé pour l'agence Amplitude, qui est un tour opérateur à Toulouse. Pendant 6 mois, j'ai eu l'occasion en fait d'organiser des voyages de A à Z, donc des voyages quand même assez haut de gamme, des voyages de luxe sur mesure. Et puis la deuxième année, j'avais envie de changer un peu d'environnement et de retourner vers les entreprises, puisque du coup, pendant mon BTS et ma licence, j'ai travaillé plus dans des entreprises que des agences de voyage. Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait pour mon deuxième stage de master. Je me suis dit, il faut vraiment que je me trouve un très bon stage parce que ça va être la dernière ligne qui sera sur mon CV. Et donc, je me suis mise à la recherche d'un stage et je me suis dit, pour me démarquer, il faut que je fasse autre chose qu'envoyer des mails, envoyer des candidatures spontanées. Et il y avait ce salon à Londres, le WTM, donc c'est le World Trade Market, je pense, quelque chose comme ça, qui est un salon international du tourisme. Et je me suis dit, je vais y aller avec mes CV. Et je vais me présenter directement à toutes les personnes que je rencontre, toutes les entreprises en fait qui me motivent. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai eu par la suite 17 propositions de stage. Donc ça montre vraiment que quand on se présente directement en fait à quelqu'un, ben peut-être qu'il y a une confiance qui s'installe, peut-être que il y a un courant aussi qui passe. Et du coup, voilà, ce petit séjour à Londres m'a permis de décrocher un stage chez Disneyland Paris, au service marketing. Donc là, j'avais vraiment la dimension internationale que j'ai toujours souhaité avoir, enfin en tout cas pendant mes études. Et puis voilà, l'aspect aussi marketing qui me plaisait beaucoup, parce que je pense, quelqu'un de très créatif qui a toujours 10 000 idées. Donc j'ai un peu besoin aussi d'exprimer ma créativité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler dans le marketing. Et donc voilà, j'ai travaillé pour Disneyland Paris pendant 6 mois. Et ce stage m'a permis par la suite après d'intégrer une très belle entreprise qui s'appelle Le Safre. Et j'ai démarré chez Le Safre, mais vraiment juste après mon stage de fin d'études chez Disney. Et donc j'ai travaillé chez Le Safre après pendant 5 ans.
Ça a été le débouché de ce master ?
C'est ça, tout à fait.
Ouais, et moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais à propos de la créativité dans le marketing. Alors forcément, le marketing, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais on a aussi cette image où le marketing, c'est surtout de la vente. Quelle part la créativité a dans le marketing ? Quelle dimension ça a ?
Bah, pour moi, en fait, c'est on va dire deux fonctions qui doivent travailler ensemble, en fait. Et je l'ai très bien vu aussi chez Le Safre, c'est-à-dire qu'on fonctionnait un peu en duo. Le commercial et la chargée de marketing travaillaient main dans la main sur des projets parce qu'en fait, forcément, le commercial sait vendre, enfin connaît les arguments de vente. Et en fait, finalement, le marketing, pour moi, c'est une manière de mettre en avant les arguments de vente, de proposer un produit sous un autre angle. Et donc, pour moi, les deux sont indissociables.
Du coup, on va maintenant aborder ta phase de réorientation, parce que avant de travailler dans le Gers, tu as vécu plusieurs métiers, plusieurs vies. Tu as une mission d'assistante de communication événementielle pour la Coupe du Monde de la boulangerie en 2014. On en a parlé un petit peu avant, quand tu étais embauchée dans cette entreprise, Le Safre. Tu as eu la chance de pouvoir organiser cet événement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait cette mission ?
Oui, alors cette mission consistait finalement à promouvoir les activités de l'entreprise et montrer que Le Safre, en fait, est là pour aider finalement les boulangers. Et donc ma mission, c'était d'organiser les présélections de la Coupe du Monde de la boulangerie dans un premier temps. Donc ces présélections avaient lieu sur les 4 continents du monde. Donc j'ai eu la chance de pouvoir assister en présentiel à ces présélections. Et donc il y avait toute la partie forcément organisation à mettre en place, donc c'est-à-dire trouver les lieux, trouver les membres du jury, trouver les candidats. Donc on était fortement aidés par les filiales du groupe Le Safre pour ça. On avait toute la partie aussi communication, donc moi je gérais les réseaux sociaux avec l'aide d'une community manager. Je gérais aussi le site internet qui était dédié au concours. Cette mission était vraiment riche et pour moi ça a été des rencontres formidables parce que vraiment je dois dire que pour moi les boulangers ce sont des gens extrêmement simples mais à la fois tellement généreux que vraiment je peux vous dire qu'après les 2 ans d'expérience que j'ai eu chez Le Safre, quand j'ai su que c'était la fin et que j'allais démarrer un autre métier chez Le Safre, ben en fait j'étais triste finalement de me dire ben ces gens-là je vais plus les voir, enfin en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai vraiment noué des liens très très forts avec certains boulangers, donc c'est une expérience formidable, vraiment.
C'est un des aspects du métier aussi, les rencontres ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense être quelqu'un de très sociable. J'ai besoin de voir des gens, de rencontrer les autres, de m'intéresser à leur vie. Tous ces échanges sont vraiment très riches.
Et alors, à la suite de ton cursus, tu t'expatries au Chili, très différent, où tu travailles pour une chambre de commerce. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ?
Alors, pour resituer aussi un petit peu le contexte, c'est aussi grâce à Le Safre, finalement, que je suis partie au Chili, parce que j'ai rencontré mon conjoint chez Le Safre, ce qui n'était pas du tout prévu non plus, hein, mais voilà, la vie fait bien les choses. Et voilà, lui m'a dit qu'il avait cette opportunité de partir au Chili. Et moi, sur le coup, bon, je me suis dit, j'aimais bien mon travail chez Le Safre. En plus, j'avais une vie à Lille qui me convenait bien. J'avais mes amis, j'avais ma passion, l'équitation, j'avais mon cheval aussi, un puras espagnol. C'était vraiment le rêve de ma vie de m'acheter ce cheval. Et du coup, pour moi, ça a été quand même une décision pas facile à prendre. Parce que oui, j'avais envie de tenter une nouvelle expérience, de suivre mon conjoint, mais d'un autre côté, je lâchais aussi ma vie. Donc, j'ai quand même bien réfléchi réfléchi avant de partir. On a réfléchi ensemble avec mon conjoint et puis finalement on s'est dit que on allait sans doute le regretter si on ne le faisait pas. Donc on est parti et moi tout de suite je me suis dit il faut que je travaille. C'est vrai que je suis quelqu'un de dynamique. J'ai besoin toujours de voilà de me challenger un peu. Donc en arrivant au Chili, finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être simple comme je le pensais, parce que déjà, il y avait la problématique du visa. Quand on arrive dans un pays étranger, qu'on est français, on n'a pas le visa travail. Donc déjà, il faut se battre vraiment pour avoir le visa travail, parce que sinon, on peut attendre jusqu'à 8 mois avant de l'avoir, et aucune entreprise ne vous accepte si vous n'avez pas le visa. Donc déjà, ça a été un gros travail de trouver le visa. Et finalement, c'est grâce à la chambre de commerce franco-chilienne chez qui je me suis rendue un jour pour demander s'ils connaissaient les entreprises qui recrutaient. Et puis, je suis tombée sur la directrice directement qui m'a dit, bah, écoute, je cherche quelqu'un. Je cherche une responsable marketing communication pour la chambre de commerce. Et en fait, ton profil correspond tout à fait à ce que je recherche. Donc si t'es partante, on y va, quoi. Et donc du coup, c'est grâce à la chambre de commerce que j'ai pu avoir ce fameux visa. Donc il faut savoir que j'ai dû rentrer en France, je ne dis pas le bilan carbone, j'ai dû rentrer en France en avion 14 heures de vol pour demander ce visa au consulat du Chili en France et puis ensuite repartir au Chili. Donc j'ai attendu un mois et demi ce visa, mais bon, je l'ai eu et puis ensuite j'ai pu démarrer ma mission à la chambre de commerce.
Avec le recul... Cette expérience au Chili, de partir sur un continent très très loin, dans un pays inconnu, d'une culture inconnue, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
C'était absolument fabuleux. Moi, j'ai eu la chance de le faire aux États-Unis. J'étais plus jeune. Là, c'est vrai que bah, du coup, on a un peu plus de maturité. Et puis, c'était différent. La première expérience aux États-Unis, j'étais avec mes parents. Donc, je me sentais quand même entourée. Là, bah, voilà, je pars avec mon conjoint. Donc, on est que deux. On connaissait personne en arrivant. Et en fait, c'est là qu'on est obligé finalement de sortir de son confort et d'y aller pour oser rencontrer des personnes. Aussi, quand on travaille, c'est très différent. Les horaires sont très différents, le nombre de vacances aussi, le nombre de jours de vacances. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante. Moi, je ne regrette pas du tout d'y être allée. La première année, on en a vraiment profité pour voyager, pour découvrir des endroits absolument merveilleux. La cordillère des Andes, la Patagonie, le désert d'Atacama, le Chili, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été l'un de mes coups de cœur des pays que j'ai pu visiter. Vraiment, non, magnifique expérience.
Donc, tu rentres donc en France en octobre 2020, lors du confinement. Professionnellement, quel était ton état d'esprit à ce moment-là ?
Alors, donc, quand on était au Chili et que le Covid a démarré, moi, je n'avais déjà plus mon travail parce qu'il y a eu une crise politique au Chili fin 2019 qui a totalement paralysé le pays. Il y a même des moments, c'était dangereux. Donc en fait, nous, à la Chambre de commerce, on nous avait dit « vous restez chez vous ». On était confinés déjà à certains moments, fin 2019. Donc déjà, c'était très lourd pour moi psychologiquement, moi qui ai besoin de voir du monde, de me challenger, comme je l'avais dit. Là, le fait d'être chez moi, de savoir que tous mes projets étaient annulés, je devais travailler sur la COP25, je devais mettre en place le pavillon français sur la COP. Donc pour moi, c'était juste professionnellement, c'était dingue. Et de savoir que voilà, le président Piñera a décidé d'annuler la COP pour toutes ces raisons-là politiques. Ça m'a vraiment abattue, vraiment. Et donc, en janvier, j'ai eu la chance d'avoir la visite de mon père qui est venu me remonter un peu le moral en janvier 2020. Donc on a fait un fabuleux voyage sur la route des lacs au Chili. On a vu Chiloé, c'était génial. Après, en mars, juste avant le confinement, mes parents, ma mère est venue avec mes petites sœurs. Donc ça m'a aussi boosté. On a aussi eu la chance de faire la Patagonie et le Brésil, mais vraiment juste avant le confinement. Et là, on se tape le confinement. Donc imaginez-vous, on est dans un bâtiment de plusieurs étages. On est enfermé. On a vu sur plein d'autres bâtiments. Moi qui adore la nature, qui adore les grands espaces, je me suis dit « Waouh, ok, là, être confiné 14 000 km de ma famille, sans travail. » Bon, mon conjoint travaillait toujours et d'ailleurs, il travaillait beaucoup plus qu'avant parce que lui, son usine devait tourner à bloc hein, parce qu'il est était toujours dans la levure pour le safre. Et pendant les périodes de crise, on sait très bien que la consommation de pain augmente. Donc lui, il avait beaucoup de travail et moi, voilà, je devais rester dans l'appartement. Donc c'était très, très compliqué pour moi. Et donc là, on a commencé à réfléchir à notre futur. En fait, on s'est dit, bon, là, on sent qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, j'étais déséquilibrée, sans travail. Et là, du coup, je me suis dit, là, il faut que je rentre, quoi. Et du coup, on a décidé de rentrer. Et puis, je me suis mise à la recherche d'un travail. Et puis, donc, effectivement, j'ai intégré la chambre de commerce du Gers, enfin, plus particulièrement une agence qui est financée en grande partie par la chambre de commerce, l'agence Gers Développement.
Et du coup, pour toi qui a tant voyagé et qui a vécu dans plein de pays différents, qui a fait des études dans un domaine international, aussi dans le secteur du luxe, d'où vient cette envie de te réorienter pour intégrer une structure qui est beaucoup plus petite, taille humaine ?
Alors déjà, quand j'ai commencé à travailler sur la COP25 pour la Chambre de commerce franco-chilienne, j'ai pas mal étudié ce domaine-là, du développement durable, de l'écologie. Et déjà, je commençais à sentir que je changeais un peu mon état d'esprit. J'ai commencé à plus me rendre compte de l'impact environnemental de tous mes actes. Par exemple, prendre l'avion, avant, j'y pensais pas du tout. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dès que je prends l'avion, je me sens coupable. Donc déjà, je sentais fin 2019 que je commençais à changer d'idée. Je me cherchais peut-être. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette offre d'emploi chez Gers Développement qui mettait en avant le fait que dans le Gers, on essaye de développer au maximum la filière agroalimentaire bio et que c'est un territoire vraiment engagé sur la préservation des sols, la préservation de l'environnement, parce que c'est le premier département bio de France en termes de surface agricole. En fait, je me suis tout de suite retrouvée dans l'annonce et je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait. Je veux avoir un métier qui ait de l'impact. Je veux un métier qui soit plus vert et je veux un métier qui me ressemble et où tous les jours j'ai l'impression de faire du bien finalement. Et donc c'est ce que j'ai trouvé chez Gers Développement et particulièrement dans ce département où effectivement j'ai la chance d'avoir rencontré des gens comme moi en fait qui essayent de bouger les choses et de limiter l'impact, de parler de toutes ces questions-là environnementales.
Et en soi, tu as toujours un peu insisté sur ce côté de valeur, éthique, environnement, notamment quand tu étais en stage dans le secteur textile et que tu t'es rendu compte qu'au niveau éthique, ça collait pas forcément à tes convictions à toi. Est-ce que le métier que tu fais actuellement, ce poste, c'est un peu l'aboutissement de tout ça ? Tu t'es cherché pendant plusieurs années et aujourd'hui, tu as trouvé... la formule magique pour enfin concilier tes valeurs et ton travail.
C'est ça, tout à fait, c'est bien dit. Je me suis trouvée. Après, je sens que je peux aller encore plus loin. C'est pour ça que je suis actuellement en formation en parallèle de mon travail sur un métier qui est oublié, puisque c'est un métier qui n'est plus autorisé pour le moment en France, mais il est autorisé partout dans le monde. Bien, c'est l'herboristerie, en fait. C'est le métier d'herboriste. Pour moi, c'est concilier l'idée d'être proche de la nature et de faire du bien naturellement. Donc c'est vraiment vers ça que je veux tendre pour les prochaines années. Alors je ne dis pas que je vais l'exercer aujourd'hui parce que vraiment j'ai envie de terminer ma formation. J'ai envie d'être sûre aussi de ce projet, donc je me laisse quelques années. Mais c'est vrai que j'ai envie d'aller vers un métier et un style de vie qui me ressemble.
Qui a du sens.
Voilà, qui a du sens, tout à fait.
Et du coup, ce métier d'herboristerie, c'est l'aboutissement de toutes ces années passer à voyager, passer à étudier.
Oui, ce serait ça en fait. Finalement, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de terres, des terres lointaines comme l'Australie, comme le Chili, des terres plus proches comme la France. Et en fait, là, j'ai vraiment envie de me poser sur un territoire et effectivement peut-être de cultiver moi-même aussi certaines plantes et surtout voilà, de soigner les gens un peu autrement. Alors pour les petits mots, hein, l'herboristerie n'est pas là pour remplacer les médecins ou les pharmaciens, ça c'est pas du tout l'objectif, mais en fait ce serait l'idée de pouvoir soulager quelques petits bobos du quotidien en fait, quand vous avez mal à la tête, quand vous avez des problèmes pour dormir par exemple. Voilà, mon idée c'est de travailler là-dessus et puis aussi la beauté au naturel. Parce que moi, c'est vrai qu'avant, j'étais aussi plus une personne qui avait envie voilà, de fortement maquiller. Je mettais du fond de teint. Et là, en fait, je sens que j'ai vraiment changé, que j'ai plus envie en fait, de tout ça. Je me maquille très peu. Et aussi au niveau du style vestimentaire, j'avais une quantité de vêtements avant. J'achetais chez toutes les marques qu'on connaît, Zara, machin. Et là maintenant, quand je connais leur impact, j'ai plus envie du tout d'acheter chez eux. J'ai envie d'acheter du made in France. J'ai envie d'acheter chez des entrepreneurs qui s'engagent. Et donc c'est vraiment mon style de vie qui a totalement changé.
Est-ce que ça a été impacté par le fait que tu as vu, entre guillemets, l'envers du décor ? Tu as été de l'autre côté dans l'équipe marketing des grandes boîtes. Donc c'est ça qui a...
Bah, en fait, je pense qu'il y a certaines expériences qui m'ont fortement marquée. Chez Le Safre, sur la deuxième partie de ma mission, j'ai travaillé en fait en marketing pour la zone Afrique. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques déplacements, notamment à Madagascar, qui est un pays très pauvre, et aussi en Tanzanie. Et en fait, je me suis pris des sacrées leçons de vie, en fait. C'est-à-dire que les gens n'avaient rien. J'ai rencontré un petit groupe d'enfants pieds nus. Et en fait, ces enfants étaient souriants, mais comme jamais, je pense que j'ai vu des enfants sourire autant en France. Et en fait, quand on voit ça, on se dit, mais en fait, on n'a pas besoin de grand-chose dans la vie. En fait, on a juste besoin forcément de la santé, de bien manger, et puis en fait, d'être bien entouré. Et je pense qu'en fait, quand on se rend compte de ça, on n'a plus envie de superficiel, en fait. Donc, je pense que c'est toutes ces expériences-là qui m'ont fait réaliser que, voilà, pour être heureuse, j'avais pas besoin de grand-chose.
C'est ça que tu tires de tes expériences ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment ?
Non, vraiment, je me suis posé une fois la question et je me suis dit, en fait, ma vie, je l'adore, quoi. Je voudrais rien changer. Je pense aussi... je sais pas, peut-être que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'on a un destin. Et je me dis parfois, mais c'est quand même dingue que, au Chili, j'ai travaillé pour la chambre de commerce franco-chilienne. Je connaissais pas trop avant les missions des chambres de commerce. Je savais pas vraiment ce qu'elle faisait. Et puis ensuite, de travailler ensuite dans le Gers pour, on va dire, une entité qui a été créée par la chambre de commerce. Enfin, je me dis quand même que, voilà, il y a des choses un peu étranges. Je me dis, c'est peut-être un destin. Finalement, je devais me trouver là. Donc, peut-être que je suis ma bonne étoile, je sais pas.
Parce que quand tu étais étudiante, est-ce que tu te serais vue avoir cette réorientation, changer totalement de voie ?
Pas du tout. En fait, pour vous faire une petite confidence, je disais même à mon père, mais papa, je vivrai jamais en France, hein. Je vivrai loin. Tu me verras pas trop, c'est pas grave, tu viendras pour les vacances. Et je me voyais, oui, travailler dans des grands groupes, avoir une vie à 100 à l'heure. C'est ce que je disais, c'est au fur et à mesure de mes expériences que j'ai réorienté finalement mon destin.
Et toutes ces expériences, elles t'ont donné confiance ?
Oui, elles m'ont donné confiance, surtout quand je partais loin seule. Par exemple, une des expériences qui me revient souvent, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand je suis partie toute seule en Tanzanie, mon collègue devait partir avec moi et finalement, à la dernière minute, il m'a lâchée. Donc je suis arrivée toute seule et en fait, j'ai appris aussi à faire confiance à autrui. Parce que quand vous arrivez dans un pays où la personne en face ne parle pas votre langue, où vous n'avez aucun repère parce que c'est vraiment une culture totalement différente de la vôtre, c'est du bruit partout, et en fait vous apprenez à faire confiance aussi donc à vous-même, parce que en fait c'est pas, enfin moi je me mettais une pression quand même, je me disais bon, le groupe Le Safre me fait confiance, il m'envoie comme ça sur des missions géniales où je dois promouvoir une marque de levure, faire un roadshow avec un camion, distribuer des goodies. Et je me dis là, il faut que j'assure quand même, parce que c'est des coûts, c'est un budget, il faut que j'assure, il faut que la campagne elle ait du succès. Donc vous mettez une pression sur les épaules. Donc déjà, voilà, il faut apprendre à se faire confiance. Et puis après, voilà, quand il y a des collègues sur les différents continents qui nous aident, il faut leur faire confiance en fait. Il faut se dire je peux me reposer sur eux, ils vont m'aider à accomplir ma mission. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai fait totalement confiance, je les suivais partout, parce que moi j'allais vraiment pas là où allaient les touristes, j'allais dans des endroits où en fait il y avait que des locaux. Et c'est vrai que ça peut quand même être impressionnant quand on est une femme seule dans un pays étranger où on parle pas la langue, mais voilà, ça s'est toujours très très bien passé et je suis ravie d'avoir eu cette chance. Je remercierai toujours le groupe Le Safre pour m'avoir fait vivre des expériences comme celle-ci.
Et est-ce qu'au moment de ta réorientation, quand tu es rentrée en France et que tu t'es installée dans le Gers, est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit « c'est peut-être pas pour moi » ?
Alors forcément, on a toujours, je pense, une part de doute. Après, moi, j'évite de trop tergiverser. Enfin, en fait, je pèse vite le pour et le contre. Et en fait, je pense qu'il y a aussi les émotions qui parlent. En fait, quand on se sent bien, on se dit, c'est ça, en fait, qu'il me faut. Si on a vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, c'est que c'est pas pour nous et il faut abandonner. Moi, j'avoue que je me fie pas mal à mes émotions.
Il faut se faire confiance.
Oui, tout à fait.
C'est un conseil que tu donnerais aux étudiants qui nous écoutent?
Oui, il faut se faire confiance. Il faut se fixer un objectif et peu importe les obstacles qui se présentent à nous, il faut foncer. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont essayer de vous décourager. Alors, c'est peut-être des personnes jalouses, c'est peut-être des personnes qui n'osent pas, mais ne les écoutez pas. Allez-y, ça va bien se passer. Si vous vous faites confiance, rien ne peut vous arrêter, quoi.
C'est comme ça que tu as réussi à naviguer un peu, pas forcément le doute, mais parfois l'incertitude qu'on a, notamment au moment où on est en train de faire ses études, on n'est pas forcément sûr du débouché, de la sortie.
Oui, et puis surtout, je pense que la chance qu'on a aussi par rapport à nos parents ou grands-parents, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aussi de changer de voie. Donc peut-être qu'on a une envie certaine à ce moment-là, et peut-être que dans 5 ans, ce sera une autre envie, mais c'est pas grave, en fait. Il faut toujours rester raisonnable. Il faut toujours avoir un salaire, avoir un travail, parce que, par exemple, je trouve que c'est super, il y a des personnes qui partent en tour du monde, ils reviennent, alors c'est un peu difficile de se remettre dans le travail, mais il faut le faire, quoi. Et c'est surtout que voilà, ça dure un an. On sait qu'après, on revient à la vie un peu plus normale. Donc oui, pour moi, il faut se faire confiance. Il faut oser. Et puis surtout, si on sent à un moment donné qu'on n'est plus satisfait, oser changer.
Oser changer, c'est pas mal. Pour revenir un petit peu sur l'éthique, tes valeurs personnelles, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place dans ton métier pour que ton activité, elle colle à ces valeurs ?
Alors, surtout sur la partie agroalimentaire bio, donc il y a ces deux concours que j'organise, donc un concours qui est national, qui existe depuis 10 ans et qui est parrainé par EcoCert, donc c'est le premier organisme de certification au monde. Donc déjà, je pense que dans cette mission-là d'organisation des concours sur cette filière, il y a une mission de sensibilisation aussi. On a envie de montrer que en fait, manger bio, c'est pas seulement mieux pour notre corps, c'est aussi mieux pour notre planète. Et ça, pour moi, c'est important aussi de le rappeler au quotidien dans mon travail. Donc comme je gère les réseaux sociaux, j'en profite parfois pour mettre des messages. Je profite aussi de mes rencontres aussi pour essayer de changer un petit peu les mentalités. Il y a toujours, dans le Gers, c'est même ailleurs, des agriculteurs qui vont utiliser des pesticides, mais ça, le problème ne vient pas d'eux, c'est qu'il y a toujours des lobbyings en fait en France, et ça c'est très malheureux, et moi j'ai vraiment envie de faire ma part des choses comme je peux, à travers mes rencontres, à travers les projets que je gère. Je parlais de la transition alimentaire, c'est aussi pour moi un événement aussi qui peut changer certaines mentalités. Donc dans mon travail, déjà, c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Enfin, au quotidien, je pense faire mon travail comme il se doit, et, et justement véhiculer toutes ces valeurs. Et dans mon quotidien aussi personnel, ben c'est vrai que j'essaye comme je peux. J'ai un compost, là je suis en train de monter mon potager, enfin, j'essaye d'acheter français, j'essaye d'acheter en circuit court. J'avoue que j'évite les grands magasins maintenant, les grandes surfaces, je n'y vais plus parce que je sais que derrière ben c'est du transport, on ne connaît pas non plus la rémunération des producteurs, donc moi je préfère aller directement sur les petits marchés où je rencontre les producteurs. Je sais où sont faits les produits que j'achète. En plus, je les trouve meilleurs. Donc voilà, dans mon quotidien et dans le domaine pro, je me sens en phase avec mes valeurs.
Est-ce que voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, est-ce que ça te manque aujourd'hui ?
Alors, je vais pas mentir, c'est sûr que parfois ça me manque, mais j'ai pas une aussi grande envie, enfin la même envie qu'avant, plutôt. C'est vrai qu'avant de partir au Chili, j'avais toujours besoin, tous les 3-4 mois, de partir à l'étranger, ou loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me dire, bah, en fait, on peut pas s'arrêter finalement de voyager, parce que voilà, on n'a qu'une vie, il faut quand même en profiter. Mais il faut se limiter. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est l'idée qu'être 100% écolo, finalement, c'est très, très dur. Et je pense qu'il faut être écolo, mais il faut aussi continuer de vivre, quoi. Pour moi, voyager, c'est quand même... C'est une ouverture d'esprit, c'est connaître mieux la vie. Et il faut se limiter, quoi. Un voyage, par exemple, par an. Mais quand on fait un voyage par an, ben voilà, on part pendant 3-4 semaines, on consomme local. Il y a plein aujourd'hui d'agences de voyage qui sont responsables. Et donc, je pense que, voilà, il est possible aujourd'hui de voyager de manière plus responsable. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas pour mes prochains voyages. Et surtout, voilà, j'ai envie de moins voyager pour moins polluer.
Est-ce que tu te verrais dans les prochaines années t'expatrier à nouveau ?
Alors loin, non, ça c'est sûr. J'ai senti aussi pendant mon expatriation au Chili que j'avais besoin de ma famille. Et puis c'est vrai que voilà, ces longs voyages en avion et tout ça, c'était quand même pas agréable. Mais par contre, pourquoi pas, voilà, en Espagne, en Italie, voilà, pas loin de la France, au moins je peux continuer à voir ma famille. Et puis aussi, c'est des pays en fait où c'est une expatriation, mais c'est quand même voilà, une culture qui nous ressemble plus. Et surtout, moi, je pense maintenant aussi que quand on s'expatrie, il faut bien réfléchir à si on veut trouver un travail sur place, le visa, etc. Donc j'avoue que voilà, en Espagne, j'aurais moins peur parce que je me dis que je pourrais facilement retrouver du travail, ou en Italie, ou en Angleterre. En Europe, ce sera plus facile, quoi.
Et quand je regarde ton parcours aujourd'hui, je vois que tu as navigué dans plein de mondes différents. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'adapter ?
Ben, je pense que c'est l'éducation aussi de mes parents. Les rencontres, par exemple, pendant ma scolarité, mes amis. En fait, quand on se sent accompagné, c'est plus facile d'accepter le changement. C'est vrai que moi, déjà toute petite, j'ai voyagé. Hein. Je suis partie vivre en Allemagne avec mes parents. Je suis partie vivre en Belgique. Je suis partie vivre aux États-Unis. Donc, en fait, je pense que déjà, mes parents m'ont appris à m'adapter. Après, quand j'ai changé de poste, finalement, c'était aussi changer d'équipe, changer d'activité, donc finalement ça s'est fait un peu naturellement pour moi, et au contraire, je pense que parfois j'ai quand même besoin de changement, enfin j'ai besoin d'apprendre, en fait. Moi, j'ai une soif d'apprendre. Si je reste sur une routine, je sais que voilà, je m'ennuie quand même assez rapidement. Donc me former par exemple sur un nouveau métier, ou lire aussi, lire des magazines, enfin j'ai toujours besoin de me nourrir. Donc je pense que c'est ça qui m'aide à m'adapter plus facilement.
Et quelles ressources tu as pu puiser en toi pour être sereine dans autant d'environnements différents ?
Je dirais la gestion du stress déjà. Parce que c'est vrai que quand on bouge comme ça pas mal, quand on change aussi de métier, en fait, ça peut être stressant d'arriver dans un endroit inconnu. Donc je sais que j'ai toujours eu des petites techniques pour me relaxer. Je fais beaucoup de sport, j'ai une passion qui est très prenante. Bon, là, je l'ai arrêtée un petit peu, mais je vais la reprendre dès vendredi. Mais voilà, je fais de l'équitation et pour moi, c'est un sport très, très complet qui oblige en fait à avoir une maîtrise de soi, finalement, parce qu'on est devant un animal qui fait entre 500 kilos et une tonne. Donc, autant vous dire que si lui, il n'a pas envie, en fait, il faut toujours être cool avec lui et comprendre en fait ce dont il a besoin pour qu'il soit d'accord de faire ce que vous lui demandez. Et pour moi, l'équitation, c'est vraiment voilà, un sport très complet où on, voilà, c'est physique, mais c'est aussi très mental. C'est-à-dire que si vous arrivez un jour voir votre cheval et que vous êtes énervé, que vous avez passé une mauvaise journée, croyez-moi bien que vous allez passer un mauvais moment avec lui parce qu'il va le sentir, il va être énervé lui aussi. Donc en fait, il faut apprendre à maîtriser ses émotions et surtout à être à l'écoute du cheval. Et moi, je pense que ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours de faire du cheval parce que ça m'aide à écouter les autres. Et surtout dans des situations stressantes, par exemple, on monte un cheval et il est énervé, il faut le calmer. C'est pareil que quand on est dans une réunion et qu'on doit parler devant 20 personnes. Pour moi, c'est le même stress. Il faut que j'apprenne à le calmer, à le maîtriser. Donc je pense que c'est ce genre d'activité, enfin ma passion qui m'aide au quotidien à gérer les changements.
Et on revient un peu à ce que tu disais auparavant sur le fait qu'il faut s'écouter soi-même, écouter les signaux que notre corps nous envoie.
Oui, pour moi, il faut toujours être en phase avec soi-même pour être heureux. Je le disais tout à l'heure, mais en fait, on le sent vite quand on n'est pas au bon moment et au bon endroit. Notre corps nous parle. Peut-être que, on va se sentir un peu triste ou on va se sentir un peu angoissé. Donc, pour moi, je sais maintenant quand je suis à ma place et quand je ne le suis pas.
Tu as appris à t'écouter.
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement ou tu as dû te faire violence pour t'écouter ?
Non, c'est venu avec le temps. Je me souviens que quand j'ai commencé chez Le Saffre, c'était en 2014, il y avait des moments où j'étais super stressée, mais vraiment, je perdais quand même mes moyens. Et finalement, maintenant, je vis un peu le même genre de situation et ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai de l'expérience, parce que je sais comment gérer. Mais non, pour moi, c'est un long processus et en fait, si on s'écoute pas, en fait, les émotions, elles vont prendre encore plus de place et ça va être encore plus difficile de gérer. Donc parfois, il faut savoir appuyer sur le bouton pause et se poser un peu et se demander est-ce que là tout va bien, comment je me sens. Et puis voilà, c'est écouter. Si on a envie de s'arrêter de travailler 15 minutes pour aller boire un thé, on va boire un thé. Si on a envie de sortir du travail, d'aller se balader en forêt, on va se balader en forêt. Si on a envie, faut se faire des petits plaisirs, c'est ça aussi la vie, quoi.
Et pour finir, tu viens de nous donner quelques conseils, mais est-ce que tu en aurais d'autres ? Est-ce que, au vu de ton parcours, tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par le même master que tu as fait ou une carrière à l'international ou par l'expatriation?
Moi, je pense vraiment que ce qui aide à savoir ce que l'on veut, c'est la partie stage. Je pense que les étudiants réfléchissent à ce qu'ils veulent faire et puis qu'ils testent en entreprise si c'est réellement ça qu'ils veulent faire, quoi. Il faut aller chercher un bon stage parce que c'est ça qui va être noté sur le CV. Donc, ne pas hésiter à aller directement sur place, directement voir les entreprises pour leur montrer notre motivation, pour se présenter, leur donner confiance. Et tester en fait. Si on a une idée en tête, tant qu'on l'a pas testée, elle va nous rester. Et du coup, faut foncer quoi. Faut pas se poser 36 000 questions. Faut y aller. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas rester à rien faire et il faut pas avoir 10 000 idées et puis attendre qu'il y en ait une qui ressorte pour y aller quoi. Il faut vraiment y aller dès qu'on sent qu'il y a un truc qui nous titille. Go quoi.
Merci beaucoup Marine pour ce moment qu'on a passé ensemble.
Je vous en prie, c'était un grand plaisir pour moi de revenir à la Cato.
Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours, continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcast. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite.